France Culture, il est midi et demi, bienvenue à tous. Tout de suite, c'est le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Quand Donald Trump rebat les cartes et provoque la stupéfaction en ordonnant unilatéralement le retrait des troupes américaines en Syrie, le président des États-Unis se justifie en martelant que l'EI aurait été vaincu. Toujours est-il que la décision américaine ouvre désormais un boulevard à la Turquie pour mettre ses menaces de nouvelles offensives militaires à exécution.
Dans cette édition également, le président russe Vladimir Poutine se livre depuis ce matin à son traditionnel face-à-face annuel avec la presse.
Un face-à-face très attendu dans un contexte de tension renouvelée avec l'Occident, qu'il s'agisse des intentions américaines de se retirer d'un traité nucléaire stratégique ou bien de la confrontation maritime entre Moscou et Kiev.
International toujours, la tension monte au Togo.
Oui, des élections législatives y sont organisées aujourd'hui dans un contexte explosif, un scrutin boycotté par l'opposition.
Et puis un sondage IFOP stupéfiant publié aujourd'hui par la Fondation Jean Jaurès et duquel il ressort notamment qu'un Français sur 10 affirme ne pas avoir entendu parler de la Shoah.
Il serait également près de 20% à ne pas savoir quand ce génocide a été perpétré. Le Parlement a définitivement approuvé ce matin par un ultime vote de l'Assemblée le projet de budget 2019 qui comprend des baisses d'impôts et de la dépense publique et ce au terme d'un parcours rendu tumultueux par la crise des gilets jaunes et puis pour entamer 2019 sur de nouvelles bases. L'exécutif compte par ailleurs sur le grand débat national qui se veut la réponse politique à la plus grave crise depuis le début du quinquennat. Reste à savoir les modalités de cette concertation qui doit se décliner jusqu'au début mars sur l'ensemble du territoire. Nous poserons la question dans une vingtaine de minutes à celle qui préside justement la commission du débat public, Chantal Joanneau. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Et on poursuivra la discussion que vous aurez ouverte avec votre invité Chantal Joanneau en déplaçant un peu le débat sur le terrain européen. L'Europe, problème ou solution à la crise politique actuelle ouverte avec le mouvement des Gilets jaunes. Deux invités avec nous, tous deux co-auteurs du manifeste pour la démocratisation de l'Europe. Un manifeste lancé notamment par l'économiste Thomas Piketty.
Merci, à tout à l'heure. Comme à son habitude, la déclaration hier de Donald Trump de bon matin sur son compte Twitter aura visiblement pris de court tout le monde, y compris sa propre administration, parce qu'il estime que l'organisation État islamique a été vaincue en Syrie. Le chef de la Maison-Blanche a exprimé sa volonté de retirer les troupes américaines stationnées dans le pays. Un retrait total qui interviendra aussi rapidement que possible. Et même si Donald Trump n'a jamais caché son scepticisme quant à l'opportunité de s'investir militairement en Syrie, cette annonce n'en reste pas moins stupéfiante, eu égard en particulier aux multiples déclarations émanant tant du Pentagone que du Département d'État, jugeant au contraire indispensable le maintien des troupes pour éviter une réémergence du mouvement djihadiste. Aurélien Colli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Beyrouth. Alors pourquoi cette annonce surprise? Daesh a-t-il tout d'abord réellement été vaincu, comme l'affirme le président américain?
Alors sur le terrain, oui. Depuis le début de l'intervention américaine en 2014, le déploiement de forces spéciales, de formateurs aux côtés des Kurdes, l'État islamique a perdu plus de 90% du territoire syrien qu'il contrôlait, notamment ses principaux fiefs dans le nord, Kobané, Raqqa, Deir ez-Zor, et ce week-end encore, Ajin, son dernier centre de commandement, perdu après 3 mois de combat et des centaines de frappes aériennes, essentiellement américaines. C'est la chute d'ailleurs d'Ajin qui fait dire à Donald Trump que l'État islamique est battu, sauf que tous les analystes disent l'inverse. D'abord, ils contrôlent encore des villages dans l'est syrien et surtout des milliers de combattants se sont mis en sourdine, fondus dans la population civile, mais ni eux, ni le mouvement n'ont vraiment disparu. Donald Trump ferait donc l'erreur d'Obama avec Al-Qaïda en Irak, victoire militaire, retrait des troupes, renvoyé ensuite devant la résurgence de l'organisation, devant l'instabilité et le chaos.
Alors si cette décision de retirer les troupes américaines de Syrie venait à se confirmer, Aurélien, il convient également de rappeler combien elle risque d'influer sur la complexe équation régionale. On imagine que Bachar el-Assad se frotte d'ores et déjà les mains et idem pour le président turc Recep Tayyip Erdogan qui aurait de facto le champ libre pour lancer une offensive militaire contre les forces kurdes syriennes soutenues jusque-là par les États-Unis.
Oui, on imagine les sourires de Erdogan, Poutine, Al-Assad et de l'ayatollah Khamenei. La formule est du journal libanais L'Orient le Jour ce matin. Elle résume parfaitement la situation. Erdogan sourit car le retrait américain, c'est carte blanche pour lui pour lancer l'offensive contre les forces kurdes. Depuis plusieurs jours, il menaçait d'intervenir. Il a convaincu la semaine dernière Trump que la bataille contre Daesh était gagnée, que la Turquie terminait le travail si nécessaire. Victoire diplomatique. Sourire aussi pour Bachar Al-Assad. La fin du parapluie américain impose aux Kurdes d'en trouver très rapidement un autre. autre face à la Turquie, donc de se tourner vers lui. Les Kurdes n'ont jamais demandé son départ, simplement de l'autonomie que Damas a tout intérêt à lui accorder aujourd'hui, à leur accorder aujourd'hui, d'autant que le régime syrien a besoin de l'est de son territoire où se concentre l'essentiel des richesses. Et puis Vladimir Poutine peut sourire aussi. La présence américaine dans l'est sur près d'un tiers du territoire syrien, c'était le levier de Washington pour peser sur une sortie politique à la guerre, mettre la pression sur Moscou et obtenir un processus qui pourrait mener au départ de Bachar al-Assad. Désormais, le seul arbitre, c'est Moscou. Et puis enfin, l'ayatollah Khamenei sourit aussi parce que cette présence américaine contenait l'influence de l'Iran qui se bat aux côtés du régime syrien. Le champ est donc désormais libre aussi pour Téhéran.
Merci Aurélien Colli en direct de Beyrouth. S'agissant toujours des impulsions, sinon des pressions exercées par le chef de la Maison Blanche, elle, visiblement, n'en a cure. Elle, c'est la Fed. Hier, la Banque Centrale Américaine a une fois de plus relevé son taux d'intérêt. 0,25 point de pourcentage supplémentaire. C'est la 4e hausse de l'année et la 7e depuis que Donald Trump est au pouvoir. Le comité monétaire justifie ce nouveau tour de vis par la bonne santé de la première économie mondiale avec des gains d'emploi solides et des dépenses de consommation fortes. Sauf que des taux plus hauts entraînent nécessairement un renforcement du dollar, de quoi faire trembler Wall Street, dont le succès euphorique jusqu'ici a été la fierté de Donald Trump. Autre preuve de ce que les injonctions du président américain n'ont pas nécessairement force de loi, un juge du tribunal fédéral de Washington a invalidé hier la décision de Donald Trump d'exclure du droit d'asile les victimes de violences domestiques et de gangs. C'est la volonté du Congrès et non les lubies de l'administration qui déterminent les critères pour les expulsions, a-t-il précisé. Enfin, toujours aux États-Unis, on a appris hier que près de 700 prêtres catholiques ont été visés par des accusations d'agression sexuelle sur mineurs dans les diocèses de l'Illinois. Les abus s'étalent sur plusieurs décennies. La procureure de cet état du nord-est des États-Unis regrette que la plupart des cas n'ont pas fait l'objet d'une enquête appropriée. Alors que deux rapports publiés cette semaine par le Sénat américain révèlent l'ampleur considérable de l'interférence russe dans la présidentielle américaine qui a porté Donald Trump à la Maison Blanche, et après que Moscou a engagé le mois dernier sa pire confrontation militaire avec l'Ukraine depuis l'annexion de la Crimée, c'est peu de dire que les sujets de discussion ne devraient pas manquer lors du face-à-face annuel avec la presse auquel le président Vladimir Poutine se livre depuis ce matin. Un véritable marathon de questions-réponses, traditionnellement marqué par des plaisanteries plus ou moins drôles de la part du chef du Kremlin, des expressions également à la tournure souvent étrange, sorte de casse-tête pour les interprètes chargés de la traduction simultanée, sans oublier aussi parfois des annonces marquantes en forme de coup de théâtre. Alors est-ce le cas cette année? Réponse avec la correspondance à Moscou, signée Claude Brouillot.
Les scénarii de guerre mondiale figurent toujours en bonne place dans les thèmes abordés par Vladimir Poutine à l'occasion de chacune de ses grandes conférences de presse annuelles. L'exercice 2018 n'a pas failli la tradition, d'autant plus que les annonces américaines de retrait de l'accord de 1987 sur les missiles à moyenne portée offraient une occasion idéale au président russe pour aborder la question. Question d'ailleurs posée opportunément par un journaliste de la chaîne fédérale Pervy Canal. Vladimir Poutine s'est alors lancé dans une démonstration très précise, enfin connaisseur du domaine militaire et à grand renfort de détails en cas d'attaque par des missiles occidentaux. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Un missile balistique a été lancé, qu'il soit nucléaire ou pas. Les défenses antimissiles vont alors localiser sa base de lancement, puis la trajectoire et enfin les différents objectifs du tir. Des erreurs peuvent se produire et alors ce sera terrible. Il ne faut surtout pas se mettre dans ce genre de situation. Beaucoup plus sereinement ensuite, Vladimir Poutine est revenu sur l'affaire Skripal pour vanter les mérites des sanctions occidentales qui, selon lui, ont donné plus d'énergie à l'économie russe. Le maître du Kremlin prenant l'exemple du secteur automobile qui fabriquerait, selon lui, aujourd'hui 90% de ses équipements sur le territoire national.
Déjà deux fois reportées depuis 2016, les élections prévues dimanche prochain en République démocratique du Congo pourraient être de nouveau retardées d'une semaine. Hier, la campagne électorale rattrapée par la violence avec au moins 6 morts a été suspendue par les autorités locales dans la capitale Kinshasa. Ces élections doivent organiser la sortie du pouvoir du président Kabila, lequel a renoncé à briguer un troisième mandat interdit par la Constitution. La situation n'est guère plus brillante au Togo, où se tiennent aujourd'hui même des élections législatives décidées et maintenues de façon unilatérale par le pouvoir, mais boycottées par l'opposition, laquelle réclame la fin du règne du président Niasingbe. Les explications de Christian Cheneau.
Le Togo est aujourd'hui plongé dans une impasse politique profonde. Le climat est électrique. Depuis la mi-2017, ce pays d'Afrique de l'Ouest connaît des manifestations massives qui réclament le départ du président fort Nassimbe. Au pouvoir depuis 2005, il a succédé à son père, qui avait régné d'une main de fer sur le Togo pendant 38 ans. Son objectif est de remporter une majorité au Parlement afin de faire voter une réforme constitutionnelle qui lui ouvrirait les portes d'un quatrième mandat en 2020, voire d'un cinquième en 2025. Évidemment, cette présidence à vie, qui ne dit pas son nom, exacerbe la tension. La coalition de l'opposition, qui regroupe 14 partis, a décidé de boycotter le scrutin d'aujourd'hui. Dans ce climat délétère et volatile, les églises locales ont demandé à Faure Gnassingbé de reporter de quelques mois les élections législatives pour faire baisser la tension. Mais le président togolais ne veut rien entendre et maintient le cap. L'ONU a exprimé sa préoccupation, ainsi que l'Union européenne et les États-Unis. La communauté internationale craint des violences pendant et après le scrutin, car quel que soit le résultat, ces législatives ne régleront rien sur le fond. À défaut d'ouvrir un véritable dialogue national, le pouvoir à Lomé a surtout l'intention de frapper fort contre toute manifestation de ses opposants.
Un mois après son arrestation surprise au Japon et alors que personne ne s'y attendait, Carlos Ghosn peut espérer être libéré bientôt sous caution. Le tribunal de Tokyo en effet rejeté ce matin la requête du parquet d'étendre sa garde à vue. Un nouveau rebondissement donc dans cette affaire déjà rocambolesque. En revanche, la décision du tribunal ne veut pas dire que Carlos Ghosn ne sera pas inculpé une deuxième fois. 10% des Français n'ont jamais entendu parler de la Shoah et cette proportion grimpe même à presque 20% chez les sondés âgés entre 18 et 34 ans. C'est là l'un des principaux enseignements d'une enquête réalisée par l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et publiée aujourd'hui. Toujours selon ce sondage, les Français seraient en outre 21% à ne pas connaître la période durant laquelle a été perpétrée l'extermination par l'Allemagne nazie de 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mathieu Laurent, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors ces chiffres sont évidemment préoccupants. Pour autant, il faut préciser, Mathieu, qu'en réalité, la méconnaissance sur la Shoah recule.
Certes, elle recule, mais la précision s'émousse auprès des jeunes générations quand il s'agit de dater la Shoah. Et une donnée rougeoie, vous l'avez donnée, Thomas, il s'agit des 18-24 ans. Comment expliquer ce relevé ? Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'IFOP, pointe la colonisation des âmes par les réseaux sociaux, aux dépens des documentaires et émissions historiques, et possiblement le temps qui les sépare, ces jeunes gens, des tragédies du XXe siècle. Il reste néanmoins optimiste quand il se réfère à la précédente étude du même genre, Jérôme Fourquet.
Les événements tragiques que le pays a traversés depuis 2015, notamment pour ce qui concerne la communauté juive, a marqué les esprits et a fait progresser, d'une part, l'adhésion à l'enseignement de la Shoah pour prévenir un nouveau génocide. On gagne 9 points entre 2014 et 2018. Et également la qualification sur l'ampleur de ce phénomène, hein, puisque la réponse selon laquelle 6 millions de Juifs qui ont été tués par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale est considéré comme un crime monstrueux par 77% de nos concitoyens aujourd'hui, alors qu'ils n'étaient que 63% avant les attentats de 2015-2016.
Alors toujours pour essayer de décrypter les résultats préoccupants de ce sondage, Mathieu, vous avez sollicité le commentaire de Sarah Gainsburger, sociologue politiste au CNRS. Elle vient de publier avec Sandrine Lefranc « À quoi servent les politiques de mémoire ?» aux presses de Sciences Po. On l'écoute.
Dans l'étude, quand on compare notamment le cas du génocide des Juifs et celui du génocide des Rwandais, ou quand on demande aux personnes interrogées comment ils en ont entendu parler, on voit que quand même l'école joue son rôle, puisque pour ce qui est des jeunes générations, c'est principalement à l'école qu'ils en ont entendu parler, alors que les générations plus âgées, où les programmes ont été différents et ont évolué au fil du temps, eux en ont entendu parler d'abord par d'autres supports, les films, les musées, les commémorations. Donc là, on voit quand même que malgré ce qui est souvent dit sur « voilà, on peut plus enseigner la Shoah à l'école », on voit que ce n'est pas le cas. On voit vraiment que l'école transmet une connaissance minimale, celle que peut estimer le sondage, aux jeunes générations. Donc ça, je pense que c'est quand même un point positif, y compris pour les enseignants qui se voient confirmés dans la qualité de leur travail. Après, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est de comprendre que transmettre l'histoire de la Shoah, du génocide des Juifs ou des autres génocides ne rend pas forcément les gens moins antisémites ou moins racistes. C'est très difficile de transmettre des valeurs morales. On peut transmettre des connaissances, mais transmettre un comportement moral, ben ça se fait pas comme ça. C'est plutôt par mimétisme, par observation des autres ou par contrôle social, c'est-à-dire ce que les autres autour de moi pensent, disent et font, que je vais avoir des attitudes, des comportements et les changer.
Voilà, merci Mathieu Laurent pour ce décryptage. Les enseignants seront moins nombreux en collège et lycée à la rentrée prochaine, mais les élèves ne pâtiront pas de cette baisse, assure-t-on du côté du ministère de l'Éducation. Et comment ? Grâce notamment à un volume accru d'heures supplémentaires effectuées par les professeurs. À l'issue d'une journée de protestation des forces de l'ordre, le ministère de l'Intérieur a finalement concédé hier soir de revaloriser les salaires des policiers qui réclamaient plus de moyens après leur mobilisation en masse face aux gilets jaunes, une augmentation graduelle qui devrait aboutir au bout d'un an à une hausse de 120 euros net par mois pour les gardiens de la paix, jusqu'à 150 euros pour les plus hauts gradés. Alors le coût total pour les finances publiques n'a pas été communiqué, mais il viendra s'ajouter aux milliards d'euros de mesures d'urgence d'ores et déjà annoncées par le gouvernement pour faire retomber la colère des gilets jaunes. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Une fois de plus, et comme à chaque fois qu'une nouvelle ligne de dépenses budgétaires vient s'ajouter à la liste, la question se pose de savoir comment tout cela va-t-il être financé.
Oui, car en quelques jours seulement, on a vu s'allonger la colonne dépenses, une manière, vous le disiez, pour l'exécutif de calmer la colère et les mobilisations. Le Parlement vient d'adopter ce matin le budget avec un équilibre budgétaire modifié par rapport au texte initial, puisqu'il intègre des mesures comme par exemple l'annulation de la hausse de la taxe carbone. Et cet après-midi, l'Assemblée discute les mesures d'urgence économique et sociale. Le projet de loi prévoit la défiscalisation des heures supplémentaires pour les salariés, coût estimé 4 milliards d'euros, une exonération de la hausse de CSG pour 3,8 millions de foyers retraités, la hausse de la prime d'activité, cela devrait coûter autour des 2,5 milliards d'euros, et enfin la possibilité pour les entreprises de verser une prime exceptionnelle de 1 000 euros défiscalisée pour leurs salariés rémunérés jusqu'à 3 600 euros. Et alors que des entreprises du CAC 40, La Poste ou encore ce matin Engie ont annoncé leur intention de le faire, et bien certains syndicats réclament désormais que l'État employeur montre l'exemple dans la fonction publique. Pour financer des 10 milliards d'euros environ de ces mesures, l'exécutif va d'une part chercher des recettes du côté des entreprises en revenant sur des niches fiscales et des baisses d'impôts prévues, et d'autre part creuser le déficit. Bruno Le Maire était d'ailleurs à Bruxelles hier pour présenter un budget post-gilet jaune et il assure avoir la compréhension de la Commission européenne. Mais tout cela ne suffira pas à l'équilibre, et dans la mesure où l'exécutif ne cesse de réaffirmer sa volonté de tenir le cap de ses réformes, une politique de l'offre, baisse du coût du travail, soutien aux entreprises, et bien dans cette optique, c'est du côté des dépenses publiques qu'il ira chercher ses marges de manœuvre financière. Un travail, je cite, très important et parfois impopulaire pour trouver des économies va donc se poursuivre, a expliqué ce matin le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. La question désormais, c'est où et comment se feront ces économies.
Merci Catherine Pétillon. Alors parmi les mesures censées répondre à la crise des gilets jaunes existe aussi le fameux grand débat national qui devra déboucher fin mars, mi-avril, sur des décisions concrètes en fonction des consensus identifiés, mais sans détricoter les décisions prises par le gouvernement depuis 18 mois. Et pour en parler, invité aujourd'hui avec nous en studio, Chantal Joanneau, présidente de la Commission nationale du débat public et ancienne ministre des Sports et de l'Écologie sous Nicolas Sarkozy. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Anne Fauquemberg du service politique de la rédaction. Bonjour Anne.
Bonjour.
Première question toutefois, madame Joanneau. On nous dit aujourd'hui qu'on va faire des économies dans les dépenses publiques, mais sans préciser où. Est-ce que vous pouvez nous dire où s'effectueront ces économies ?
Je ne fais pas partie du gouvernement, je ne fais plus de politique, je préside une autorité indépendante qui ne fait que du débat public. Et donc, ce n'est pas mon rôle de répondre à cette question.
Existe-t-il un risque, selon vous, de détricoter le service public ?
C'est au gouvernement de répondre, c'est aux Français de répondre. Mon avis, en fait, aujourd'hui, n'est pas le plus intéressant. Je crois que ce qui est intéressant, c'est d'écouter ce que les Françaises et les Français ont à dire et qu'on n'a pas peut-être assez écouté.
Question d'Anne Fauquemberg.
Alors, on va prendre le temps d'expliquer votre méthode et les outils dans une minute, Chantal Joanneau. Mais d'abord, on peut dire que vous n'avez pas reçu beaucoup de soutien hier de l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui était à Montpellier, à propos de la consultation nationale qui va démarrer mi-janvier. Il déclare avec ça, vous ne ferez rien si pour quelque chose comme ça, tout le monde doit être d'accord, restez couché, parce que personne n'est jamais d'accord. C'est rapporté par le journal Midi Libre. Ça vous a étonné, cette déclaration ?
Je ne sais pas ce qui est vrai ou ce qui est faux dans cette déclaration, mais le plus important, c'est que 20 ans de débat public fait par la Commission nationale, 94 gros débats publics, prouvent exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, à l'occasion des débats publics, il y a beaucoup de propositions qui émergent. Nous, sur 94 débats publics, il y en a plus de 20 qui ont conduit en fait le maître d'ouvrage, le décideur, à choisir une alternative qui a été proposée par le public et sur des très gros projets. Et donc, au contraire, on voit que c'est l'occasion l'occasion de construire, c'est pas de créer du consensus. On est quand même dans une démocratie, donc c'est pas de créer du consensus, mais c'est d'éclairer sur d'autres possibilités.
Alors le dernier débat organisé par la CNDP a concerné l'avenir énergétique de la France, la fameuse PPE. Seulement 8000 personnes se sont exprimées. Alors le cadre était un petit peu différent que ce débat national, mais ça semble assez peu. Pourquoi il en serait autrement avec les Gilets jaunes, vous qui les avez rencontrés? Qu'est-ce que vous avez ressenti?
C'est un bon exemple, la PPE, parce que les conclusions de ce débat qui ont été présentées le 30 juin ont dit explicitement et très très clairement que c'était vécu comme une injustice sociale. Et quand on a présenté les conclusions le 30 juin, le président qui avait organisé ce débat a dit il y a vraiment un risque de jacquerie fiscale. Donc peut-être qu'on peut, et certains cherchent à faire du chiffre, nous on vous prouve juste là que quand on écoute, il faut apporter des réponses. Et quand on n'apporte pas de réponses, on se trouve effectivement dans la situation actuelle.
Et sur votre ressenti par rapport à ce que vous ont dit les Gilets jaunes?
Bah, ils posent d'autres questions beaucoup plus larges que celles-ci, hein, parce que ce sont effectivement les questions qui ont trait au pouvoir d'achat. Nous, on est en train de faire l'analyse de tous les courriers qu'on a pu récupérer des Gilets jaunes. Ensuite, on va aussi rencontrer certains d'entre eux pour échanger sur la méthode du débat public et partager cette
méthode.
C'est
pas encore fait, ces rencontres?
Ça va être fait. Bah, j'ai été nommée vendredi dernier, donc j'avoue qu'on est on est jeudi, donc on fait ce qu'on peut. Non, on va le faire. C'est important que toutes les parties prenantes, effectivement, puissent s'exprimer sur cette méthode. Et dire ce qui, pour eux, serait une garantie de confiance pour participer au débat.
Alors l'esprit, Chantal Jeannot, c'est une inversion des logiques habituelles dans la prise de parole. Commencer par entendre les citoyens depuis la plus petite échelle, c'est ce que vous dites. Comment concrètement et avec quels outils?
Ce qu'on propose, c'est plutôt que de faire des débats comme on fait d'ailleurs souvent, des débats qu'on pilote complètement avec des grandes réunions qui mettent pas à l'aise les gens et qui viennent pas s'exprimer dans ces réunions, de partir du terrain, de partir des initiatives locales, de dire à tout le monde, voilà, vous voulez faire un débat à votre échelle, à l'échelle d'un syndicat, d'une petite commune, même d'un collectif de citoyens, on met à votre disposition des outils qui vous expliquent comment faire un débat, et puis comment nous remonter les résultats pour qu'on puisse les utiliser, des outils d'information, voilà les différents sujets que le gouvernement souhaite mettre au débat. Si vous voulez avoir un peu d'information, vous pouvez l'utiliser, mais si vous voulez parler d'autre chose, vous êtes libre, parce qu'on ne peut pas imposer les sujets dans un débat public.
Il y a quand même quatre thèmes qui
sont
définis.
C'est les quatre thèmes, c'est important, le gouvernement a dit, voilà, moi je souhaite vous entendre sur ces quatre thèmes. Mais quand on fait du débat, il y a toujours d'autres questions qui émergent et qu'il faut aussi entendre. Donc ces quatre thèmes ne sont pas restrictifs. C'est ceux sur lesquels le gouvernement a déjà identifié des sujets, mais ils ne sont pas restrictifs.
Alors justement, est-ce qu'il y aura une limite à la prise de parole? Par exemple, de nombreux Gilets jaunes demandent la démission d'Emmanuel Macron. Ça peut faire partie des sujets?
Mais tous les sujets sont sur la table. On peut pas bâillonner la parole. C'est de dire non, ça vous n'en parlerez pas, ou ça on peut jamais bâillonner la parole. La seule limite, c'est la violence. La seule limite, c'est effectivement la violence physique notamment. Il n'y a pas de limite dans les sujets. Après, nous, on est une commission totalement neutre et totalement apolitique. Donc notre sujet à nous, c'est de comprendre le pourquoi des choses. Vous voulez la démission de telle personne? Pourquoi? Quel est le fondement de cette position? Et c'est ça le plus intéressant pour ensuite construire une décision.
C'est pour ça d'ailleurs que vous allez organiser des assemblées délibérantes de citoyens dans les régions. Vote, avec tirage au sort de certains citoyens. C'est un exercice d'apprentissage.
Nous, on propose plein d'outils différents. C'est-à-dire qu'il y a les initiatives très locales, la possibilité d'avoir des stands sur des marchés pour aller recueillir la parole. Ces fameuses assemblées régionales qui rassemblent des représentants de la société civile, syndicats, associations, élus, et des personnes tirées au sort qui travaillent ensemble, qui se mettent autour d'une table et qui délibèrent ensemble. Parce que souvent, les gens ne délibèrent pas ensemble. Ils ne se regardent pas dans les yeux pour échanger. Et donc, le but, c'est qu'ils travaillent ensemble pour construire des propositions et qu'ils votent sur ces propositions.
Comment être sûr que cette parole de tous les citoyens, depuis la plus petite échelle, comme vous le dites, soit respectée? On parle d'un collège de garants, vous parlez de 250 personnes. On est plus au clair aujourd'hui sur... ce collège?
Non, ça, ce collège reste à définir. Alors, le collège, il y a une petite confusion, mais c'est pas... Le collège de
Garant...
Voilà, le collège de Garant, nous sommes l'autorité qui garantit le droit à la participation et le fait qu'elle ait effectivement... tous ces principes sont bien respectés et que toutes les paroles sont bien respectées. Et on a 250 personnes à travers la France, quand vous faites un débat, qui peuvent être mobilisées pour garantir cette parole, voire pour animer des débats, parce qu'ils savent faire, surtout quand c'est un peu conflictuel. Là, aujourd'hui, tout l'enjeu, effectivement, c'est de récupérer toutes les des paroles et de garantir à tous que tout sera restitué dans le rapport final. Ça, nous, on le sait, on le fait, on sait le faire. C'est des systèmes argumentatifs qu'on utilise et qui permettent à tous de garantir la reprise de cette parole finale. C'est ce que fait la CNDP habituellement.
Et le gouvernement, vous avez posé des mises en garde en début de semaine sur le caractère indépendant de votre démarche, mais est-ce que vous avez obtenu des réponses sur la volonté du chef de l'État de prendre en compte tout ce qui va se dire ?
Il y a deux éléments. Sur l'indépendance et la neutralité de la démarche, la méthode permet d'y répondre. C'est impossible pour un parti politique ou qui que ce soit, ou le gouvernement, par cette méthode qui vient du terrain, de dire on va orienter les débats. Ensuite, sur comment ce sera pris en compte par le gouvernement, ça c'est au gouvernement d'y répondre. Et ils sont en train justement d'y travailler, c'est pas à moi de le faire, c'est extrêmement important. C'est un pacte politique que le gouvernement doit passer avec les citoyens.
Merci Chantal Joanneau, présidente de la Commission nationale du débat public, d'avoir été en direct avec nous. Merci à Anne Fauquemberg. On termine avec un mot rapide de météo. Le temps de cet après-midi sera majoritairement gris et pluvieux. Quant aux températures, elles seront comprises entre 5 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Benjamin Ducy. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.